algo, por favor.
¿Qué pasa?
Arthur.
Cámara.
Hanzai de esta. ¿Dónde está?
Odisea 14702 prima.
¿Qué es el tracking?
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. La grande table spéciale Cannes, deuxième. Il dit avoir fait un film de fils à maman, à l'image de sa génération. Le réalisateur Romain Gavras est venu présenter à la quinzaine des réalisateurs Le Monde est à toi, avec une belle brochette d'acteurs, dont Vincent Cassel, à découvrir Métamorphosé après le journal de Cannes d'Antoine Guillot. Des fils à maman, de Romain Gavras à Marion Cotillard, en mère aimante mais défaillante, notre deuxième invité porte ici à Cannes un premier film, Gueule d'ange, de Vanessa Philo.
Je suis pas la fille la plus détendue en interview, donc c'est vrai que je peux avoir des petits tics de... Voilà.
Des tics et le trac pour nous, surtout en prévision de notre rencontre avec deux figures du cinéma asiatique, le chinois Jia Zhangke et le japonais Koreeda. Ce sera pour la deuxième partie de l'émission à partir de 12h55, avant la séquence des critiques menée par Michel Simon. La grande table à Cannes, c'est tout de suite sur France Culture.
France Culture, la grande table, en direct du 71e Festival de Cannes. Olivia Gesbert.
Ou plus tard, sur franceculture.fr, puisqu'un grand dossier spécial Cannes est en ligne d'ores et déjà. 12h03 sur France Culture, le journal de Cannes d'Antoine Guillot. Bonjour.
Bonjour Olivia.
Un festival qui ne se joue pas que dans la compétition. Il y a aussi les hors compétition et les séances spéciales. Extrait de The House That Jack Built de Lars von Trier, projeté hier soir.
Your house is a fine little house, Jack.
Are you allowed to speak along the way? I was thinking there might be rules.
Let me put it this way. Very few make it all the way without uttering a word. But do carry on merrily. Just don't believe you're going to tell me something I haven't heard before.
Alors c'est un événement évidemment, le retour de Lars von Trier à Cannes, hein. Ça faisait 7 ans qu'il était déclaré persona non grata à cause d'une conférence de presse qui avait un peu mal tourné, on dira, où il avait exprimé sa sympathie pour Hitler. Alors depuis il a fait amende honorable, il a dit je n'ai jamais été et ne serai jamais nazi lors d'une remise de prix récente au Danemark, et donc on a levé l'interdiction parce qu'il y a quand même un nouveau film, et ça faisait trop longtemps que Lars von Trier n'était pas là, mais on le met pas en compétition parce que il faut un peu un purgatoire. Alors ce qu'on entend là, c'est un dialogue philosophique, on est presque dans l'enfer de Dante. Virgile et un certain Jack discutent comme ça, tout en déroulant un film qui est un film de serial killer. Dans le dossier de presse, Lars von Trier déclare: pendant des années j'ai fait des films sur des femmes bien, et maintenant j'ai fait un film sur un homme mauvais. Et ce film peut être vu via ce dialogue comme une grande réflexion philosophique sur ce qu'est l'art, et comme une grande tentative d'auto-justification dialectique de Lars von Trier sur son travail, parce qu'il y a deux conceptions de l'art qui s'affrontent dedans. Celle du serial killer qui considère que chaque meurtre est un art, mais on peut considérer que c'est un réalisateur qui parle en disant un artiste doit être cynique et ne pas se préoccuper des hommes. Est-ce qu'on représente à l'écran et dans l'art ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la vie? Là, c'est Lars von Trier qui parle. Et puis il y a l'autre qui représente un peu le surmoi, et Virgile qui va dire: oh, mais je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Avec ce film, je pense que Lars von Trier pourrait avoir encore quelques soucis, parce qu'il y a des images non seulement de meurtre extrêmement dérangeant. Si vous avez des enfants, n'allez pas voir ce film.
En tout cas pas avec eux,
mais ça vous fera quelque chose quand même, parce que des meurtres d'enfants aussi graphiques à l'écran, on en a quand même rarement, je crois, jamais vu. Et puis, il y a aussi quand même son admiration pour l'esthétique des ruines d'Albert Speer, qui est encore affirmée dedans, et d'autres choses encore qui peuvent provoquer débat.
Cette enfance maltraitée qui nous rappelle la précédente édition du Festival de Cannes, où cette enfance maltraitée, violentée, était vraiment au cœur de plusieurs films dont on vous avait parlé l'an passé. Bon, donc Lars von Trier au purgatoire parce que hors compétition. Est-ce à dire que tous les films qui sont hors compétition ou en séance spéciale vivent un purgatoire, une mise à la marge, une mise au banc? C'est quoi en fait une programmation hors compétition, Antoine Guillaume?
Alors c'est une vraie question qu'on se pose. Pourquoi certains films sont hors compétition et d'autres sont dans la compétition? Parfois c'est très clair. On va mettre un film pour mettre un peu de glamour ou créer l'événement. Ça va être le cas du énième épisode de la Guerre des Étoiles de Star Wars, qui va montrer la jeunesse de Han Solo. Donc ça, on va voir ce soir. C'est évidemment pas un film pour la compétition. Un film comme celui de Gilles Lelouch est là pour aligner un certain casting. Ça va faire une belle montée des marches. Il y a le cas du film politique, le documentaire libre, par exemple, sur la traversée des migrants qui, à leur risque et péril, traversent les Alpes entre l'Italie et la France en ce moment. Celui de Romain Goupil, la traversée avec Cohn-Bendit, des films sur Mandela, sur le pape François. Enfin voilà, là on est dans le geste politique, c'est pas un geste esthétique qui va en compétition. Ça devient parfois plus complexe. Il y a des films hors normes. Le film de Wang Bing, cet immense film de 8h15, évidemment, était compliqué à mettre en compétition. Mais il y a d'autres festivals qui n'hésitent pas à mettre des films aussi longs. Donc ça aurait été un geste aussi très fort de le mettre en compétition. Et puis à l'inverse, quand on voit certains films à sujet un peu faibles dans la compétition, comme un film égyptien, comme un film qui parle des femmes guerrières, par exemple, on se dit, oui, alors il y a un gros sujet, c'est bien qu'on en parle, mais est-ce la place pour les mettre en compétition? Donc voilà, ça fait aussi discuter les festivaliers qui n'aiment rien tant que remettre en cause les choix du délégué général.
Merci beaucoup Antoine Guillot. Le journal de Cannes est à retrouver en ligne sur franceculture.fr.
France Culture.
Can I read?
La grande table spéciale Cannes.
I will sound the words. And you?
Olivia Gesbert.
You're in this life for good.
Quand je fais des rôles comme ça, j'ai l'impression d'être un acteur en kit. Vous savez, on me rajoute le nez, les doigts, le nez, les cheveux, le ventre, les yeux, là, en l'occurrence.
Ben nous, en l'occurrence, c'est un Vincent Cassel reconstitué que nous avons rencontré. Midi 8 sur France Culture. Pas de mise en quarantaine, mais un Vincent Cassel en quinzaine des réalisateurs cette année. Dans Le Monde est à toi, le nouveau film du réalisateur Cadra, Romain Gavras, il joue un tolard, un peu azimuté, hypnotisé par la voix de Castoriadis, comme conquis par les théories conspirationnistes des Illuminati. Un tonton flingueur avec un pistolet en plastique, en somme. Le Monde est à toi, c'est une comédie pop, voire hip-hop, qui s'ouvre entre les bars HLM de la banlieue parisienne et se poursuit entre les gratte-ciels d'une cité balnéaire du sud de l'Espagne. Un film de bande avec Isabelle Adjani en mère possessive et fantasque et Philippe Catherine en avocat véreux. À noter aussi Karim Leclou et Oulaya Amamra, vu dans Divine. Mais surtout Vincent Cassel, donc ex-Lahaine, ex-Mérine, ex-Montroi. Et voilà, rencontre. Le Monde est à toi, c'est le nouveau film de Romain Gavras dans lequel vous tournez en bande, pas seul, présenté dans la quinzaine des réalisateurs. On va essayer de pitcher le film, c'est pas si simple et vous allez m'aider. François, joué par Karim Leclou, un peu faible mais sensible et pas con, se décide à faire passer un peu de drogue d'Espagne pour le compte d'un petit caïd du quartier. Toutes ses économies, sa mère les a brûlées sur une table de jeu et pour pouvoir lancer une franchise de Mr Freeze au Maghreb. Il aspire juste à une vie normale, François. Vous lisez ça, vous, dans le scénario, vous vous dites j'y vais ?
Complètement, oui, ça, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans, en termes d'histoire. Après, je pense que le film parle de beaucoup d'autres choses, et que finalement tout ça n'est qu'un prétexte à raconter une histoire. Moi, je vois surtout le rapport aux parents, en fait, dans ce film. Il y a quelque chose de dépasser ses parents, de tuer le père, de tuer la mère, je sais pas, on peut le dire en psychanalyse. Mais il y a cet aspect-là qui, à mon avis, est bien au-delà du prétexte de faire un deal entre l'Espagne et le Maroc.
Alors vous avez souvent dit qu'il vous a fallu 20 ans pour tuer le père. Là, justement, c'est assez rigolo. Romain Gavras, fils de Costa Gavras, Vincent Cassel, fils de Jean-Pierre Cassel. On vous ramène souvent à vos pères l'un et l'autre. Mais là, le parti pris du réalisateur, de Romain Gavras, c'est d'avoir construit son film autour de cette génération, dit-il, de fils à maman. Alors là, on s'attaque à la figure de la mère. Mm-hmm. Vous êtes quel fils à maman, vous, Vincent Cassel ?
Fils à maman, moi, je sais pas, là, on parle du film. Effectivement, il y a ce rapport à la mère, qui en plus est interprété par Isabelle Adjani, et devient une mère presque plus grande que nature.
C'est la première fois que vous tournez avec elle, avec Isabelle Adjani ?
Absolument, oui, c'est la première fois que je travaille avec Isabelle. De la croiser en plus sur un film aussi dingue, parce que vraiment, moi j'aime beaucoup le film, hein, faut que je le dise quand même. Et d'être sur un projet comme ça avec elle, je trouve que c'est une belle manière de se rencontrer.
L'univers de la petite voyoucratie appelle davantage à la comédie qu'au film noir. Ça, c'est ce que dit Romain Gavras sur son film. Des petites frappes sensibles, des situations absurdes, mais finalement très humaines et incarnées. Il n'est pas facile à étiqueter, ce film. Vous diriez quoi ? C'est un film transgenre ?
Bah, le pauvre. Non, c'est un film, je crois que c'est un bon film tout court. Vous savez, tous les films un peu, qui changent, qui bousculent un peu, sont difficiles à étiqueter, mais en fait, en même temps, on s'en fout. C'est un film de Romain Gavras, ce serait la première étiquette que je pourrais mettre dessus.
Bon, c'est quoi un film de Romain Gavras?
C'est un mélange d'humour, de tendresse, il y a plein de choses en fait. C'est toujours un peu entre les deux, on sait jamais où on met les pieds. Il y a de la poésie, en même temps, il y a quelque chose de très très moderne. Il y a un esthétisme où on voit tout de suite que c'est ses images à lui, donc il travaille avec André Chemetov tout le temps. Et en même temps, au-delà de l'esthétisme, il y a quelque chose d'humain, je crois, de regarder tous ces personnages, parce que tous les personnages sont touchants, hein. C'est tous ces personnages qui se débattent avec ce qu'ils sont. Et on en rit, mais en même temps, c'est quand même assez dramatique, toujours un peu ce que ça dépeint, tout ça.
Vous dites que vous le connaissez depuis longtemps, la rencontre s'est faite comment?
Je connais Romain de l'époque de Courtrage-Mai, même les débuts de Courtrage-Mai, qui était un groupe donc où il faisait des courts-métrages, comme son nom l'indique, avec Kim Chapiron. Et je les ai rencontrés littéralement quand ils avaient 14-15 ans, puisqu'ils habitaient le même immeuble que Mathieu Kassovitz, avec qui j'étais en train de préparer, puis tourner, tout ça, les films de l'époque. Et il y avait aussi Chris Marker dans ce même immeuble. Donc il y avait quand même, c'est un immeuble de cinéma, on peut dire, vraiment, avec des complètement tagués partout, etc. Et donc je voyais Kim et Romain qui venaient et qui nous filmaient avec des caméras pourries, et ensuite faisaient des courts-métrages. Puis après j'ai fait des courts-métrages avec eux, et puis après des longs-métrages, et puis nous voilà aujourd'hui à Cannes.
Il dit, à partir de ce film aussi, Romain Gavras, avoir eu envie, comme avec le précédent film dont vous parliez, Notre jour viendra, que vous avez produit, mais dans lequel vous avez aussi joué, Vincent oui. Cassel, il a aussi cherché à détourner un à un tous les codes du film de cité.
Oui, non, même au-delà de ça, parce que c'était carrément, Là, je pense que dans la maturation de Romain Gavras, il est devenu beaucoup plus accessible. Mais le premier était une métaphore sur l'exclusion, concrètement, et plus ou moins assumée d'ailleurs, en passant par la problématique des roues, qui déjà décale le propos. Bon, voilà, on reconnaît effectivement Romain Gavras, déjà, je trouve.
Jeune fille, pas vraiment joyeux. Les amis de mademoiselle sont venus voir mademoiselle. C'est mignon, c'est le cocktail. Ça discute un peu haut chez toi.
Là, vous dites la thématique, on était sur l'exclusion plutôt sur ce film. Ici, tout est un peu dans le titre, le monde est à toi. Donc on est aussi sur ce qu'on espère, sur ce qu'on voudrait avoir dans la vie, sur ce pourquoi on vit. Il y a une reprise de PNL dans le film,
entre autres, ouais.
Le monde ou rien.
Et de Balavoine et de Sardou aussi.
Et Laurent Voulzy.
Laurent Voulzy, ouais. Absolument. Oui, c'est ça, c'est trans quelque chose aussi là, parce que... aussi un regard sur la France, hein, le film, vraiment très moderne. Je trouve que le film se permet de flirter avec des thématiques que peu de gens au cinéma arrivent aujourd'hui à évoquer sans se casser la gueule. Lui, il joue avec ça. C'est un peu provocateur et en même temps, il y a beaucoup de respect dans tout ce qu'il fait. Tout d'un coup, il y a, on a quand même Isabelle Gianni en burkini. C'est pas rien.
Non, c'est pas rien.
Voilà.
Vous allez de la tête aux pieds aussi. Le monde ou rien, ça reste quand même une ligne de conduite. Ah, je trouve que c'est comme un manifeste aussi.
Le monde ou rien, ça c'est la chanson de PNL.
Ouais.
Oui, on est toujours un peu là, le monde est à toi, le monde est à nous, le monde ou rien. On est dans des dérivés plus ou moins assumés et digérés de Scarface finalement. Et le film finalement, c'est une espèce de Scarface, moi je disais de Bagnolet, de Montreuil, vous voyez.
Vous retrouvez ici un rôle, Vincent Cassel, d'ancien taulard, après sur l'élève de Jacques Audiard, pas un caïd de façon Mérine, que vous avez incarné, qui vous a césarisé. Il est sympa, votre Henri. Il est pas très bavard, il est un peu hagard. Ouais. Et il y a cette phrase de la mère à Gianni qui lui claque la porte au nez, qui dit un peu tout. Il a attendu 15 ans en prison, il peut bien attendre 2 minutes sur le palier.
J'ai connu des mecs comme ça, il y en a deux ou trois sur qui je m'appuie vraiment pour faire ce film. Et oui, mais bon, quand on a trop de cellules qui ont grillé, pour quelque raison que ce soit, hein, que ce soit parce que les gens boivent ou parce que ils sont restés trop longtemps tout seuls ou enfermés ou alors déconnectés, en fait, voilà, ça donne des personnages comme ça, comme des espèces d'oncles mous, des mecs, mais sur qui on peut compter. Ils sont là, quoi. Ils sont toujours là. Ils veulent tout faire pour que ça se passe bien. On en a plein dans la famille, toujours. Il y en a quelques-uns qui traînent aussi. Et puis finalement, ils font partie du décor. C'est presque un peu comme un vieux chien aussi, ce personnage, des fois, je trouve. Un peu, non? En tout cas, ça a été très marrant à faire parce que c'est tellement pas comme ça que je me sens, par exemple, que je pouvais m'amuser. Puis je connais tellement bien aussi Romain, et Romain me connaît tellement bien qu'il me propose toujours des trucs, en fait, à faire qui sont un peu... Je me dis, putain, mais comment tu... C'est bizarre que tu penses à me filer ça, quand même. Donc il faut tout inventer, en fait. Tout, la gestuelle, tout. C'est des personnages à artifice, un peu. Vous savez, c'est des trucs... Quand je fais des rôles comme ça, j'ai l'impression d'être un acteur en kit. Vous savez, on me rajoute, on met le nez, les doigts, le nez, les cheveux, le ventre, les yeux, là, en l'occurrence.
Voilà, Isabelle Adjani vous a vendu hier à l'issue de la Projo en disant que vous en rajoutiez même jusqu'à vous coller des fausses pellicules sur la tête.
Non, mais l'important c'est qu'elle ait vu ça. Parce que non, j'ai pas pensé. Mais pourquoi? Mais les cheveux, il y avait naturel. Un traitement quand même. Oui, il y avait pas. Mais je vois ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que c'était. Moi, je parle toujours de texture quand je parle de personnage. C'est quoi? C'est quel type de personnage comme ça? Et effectivement, c'est un personnage à pellicule, on pourrait dire.
Vous êtes un acteur caméléon.
Pas que, j'espère. Mais aussi, je pense aussi, oui.
Pourquoi? Il faudrait quoi?
Parce qu'en fait, quand on est caméléon et qu'on change, on change tout le temps, finalement, on finit par se répéter parce qu'on devient le mec qui change tout le temps. Il y a des acteurs que je vois faire ça, mais à force de vouloir toujours se changer physiquement, on finit par retomber dans les mêmes. Qu'on peut pas non plus se réinventer 10 000 fois, hein, je crois pas. Et donc, des fois, je pense que de revenir à complètement soi, ça brouille encore les cartes et ça permet après derrière de se déguiser à nouveau.
Alors justement, qu'est-ce que vous ne pourriez pas jouer? Vous n'avez pas, vous, eu le sentiment à un moment de ne pas réussir?
J'ai eu des moments où j'ai eu beaucoup de mal chez Tan. J'ai galéré pendant 3 jours avant de trouver le perso. Il fallait tellement faire un truc que je n'avais pas fait. Je dis toujours, il faut savoir flirter avec le ridicule quand on est acteur. Parce que sinon, on est dans sa zone de confort et on change rien à rien. Des fois, quand on se permet de faire des trucs où on ne sait pas où on fout les pieds, on ouvre des nouvelles portes. On dit, ah putain, c'est marrant, putain. Je pourrais aller jusque là, vraiment. Et alors, des fois, quand on se plante, on appelle ça du cabotinage. Mais je pense que c'est important qu'un acteur reste libre et cherche, en faisant le con, sans se juger. Et sans se juger, c'est des fois aussi en acceptant d'être cabot. Mais je crois qu'il faut se permettre ça, parce que sinon, on est toujours un peu dans la moralité du jeu.
De Vince à Henry, de la haine au monde est à toi. Elle est facile, la comparaison, mais en même temps, c'est nos générations. Voilà, on a grandi avec la haine. Aujourd'hui, on se retrouve 20 ans plus tard avec ce film. Ce sera ma dernière question. Vous regardez toujours devant vous, Vincent Cassel, ou est-ce que ça vous arrive de jeter un petit coup d'œil, vous aussi, dans le rétro, pour voir le chemin que vous avez parcouru? Et si oui, j'aimerais bien savoir comment vous le voyez, ce chemin. Ça a été une autoroute pendant ces 20 ans, un chemin sinueux,
Enfin, je veux dire, moi, je suis un acteur extrêmement gâté depuis le début. Franchement, je m'éclate à faire ce que je veux. J'ai commencé avec Xavier Duringer au théâtre, alors qu'il était en train de s'inventer lui-même. Donc j'ai toujours été dans cette dynamique finalement générationnelle et je m'en suis targué d'ailleurs même. J'étais ravi et représentant de ça. Vraiment, je suis pas un acteur à plaindre. Je regarde tout ça avec... Par contre, comme j'ai toujours fait les choses avec des envies et du désir, aujourd'hui, quand je regarde dans le rétroviseur, mais c'est pas le truc que je fais le plus souvent, je regarde pas les films dans lesquels j'ai joué, etc. Je me dis que, en tout cas, ça me ressemble.
Et donc c'est tout bon?
C'est déjà pas mal, hein.
In loud places to search for someone to be quiet with, who will take me home. You go to loud places to find someone who will take you higher than took you. Didn't I take you to higher places you can't reach without?
Jamie XX, Loud Faces, extrait de la très éclectique bande originale du film Le Monde est à toi, ce Scarface de Bagnolet, comme le présente Vincent Cassel, sortie prévue du film le 24 août dans toutes les salles en France.
Can look at the pictures.
France Culture.
Abbiamo tanto da fare.
La grande table, spécial Cannes.
Oh, you think that's weird?
Fantasie.
Paola.
Olivier Gesbert.
Midi 22 sur France Culture, la suite de cette première partie de la grande table spéciale Cannes. Qu'est-ce qu'être une bonne mère? C'est en substance la question posée par le premier film de Vanessa Philo, présenté dans la section Un certain regard, en lice pour une caméra d'or qui avait couronné le film Divine il y a 2 ans. Une sélection et des enjeux.
Je trouve que la sélection Un certain regard pour un premier film, c'est l'écrin parfait, parce que peut-être qu'il y a une pression un petit peu plus douce, disons, pour un réalisateur, mais pas d'enjeu de récompense ou de choses comme ça.
Elle se montre sereine, la comédienne Marion Cotillard, révélée par La Môme, à contre-emploi déjà dans 2 jours, 1 nuit des Frères Dardenne. Elle explore ici par son jeu la psyché compliquée d'une mère aimante mais larguée, puis totalement absente. Un rôle en fusion, en dialogue avec une jeune actrice de 8 ans, au regard intense, l'autre vraie révélation de ce premier film. Mais tout de suite, rencontre avec notre gueule d'ange à nous, Marion Cotillard.
Tu vas encore planter là? Tu vas t'habiller, putain? Je te préviens tout de suite, hein, on n'est pas en retard le premier jour de l'école, hein, je te le dis, moi. Tu vas pas me foutre la honte. Hein.
Sur ce film-là, Gueule d'ange, c'est plutôt être inspiré par des choses que j'ai entendues, faire des... C'est moins technique, disons. C'est ce qu'on sent du personnage, c'est son milieu social, effectivement. C'est d'où, de quelle ville elle vient, de quel pays, qui va faire que la langue va se construire. Là, Marlène, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup la télé, qui fantasme sur la télé-réalité. Ils ont une façon de parler très particulière. Donc, j'ai peu de points communs avec Marlène dans ma vie de maman, disons. Voilà. C'est un personnage qui me bouleverse parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour en elle mais qui ne sait pas comment le donner. C'est quelqu'un qui, même si ce sont des choses qui ne sont pas racontées dans le film, mais quand on voit l'état dans lequel elle est, on peut facilement imaginer qu'elle a manqué d'amour elle-même, qu'elle a manqué d'amour quand elle était petite. Et du coup, je peux même pas la considérer, moi, comme une mauvaise mère. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait ce qu'elle peut, mais il y a un moment donné où quand elle regarde sa fille, c'est aussi le miroir de ce qu'elle n'a pas eu comme amour quand elle était petite, quand elle avait son âge. Et quand on reçoit si peu d'amour, on sait pas comment en donner soi-même, même si on en a beaucoup à l'intérieur de soi.
Arrête de faire la tête, là. Je t'ai dit qu'on ira demain au manège. Tu peux attendre demain, non?
C'est toujours la même chose, en plus.
Bon, tu sais quoi, t'as gagné? Je t'emmène à ma soirée. Je vais te maquiller, d'accord? Je vais te faire jouer comme une poupée.
Sans forcément utiliser les qualificatifs de bon ou de mauvais, comment on arrive à s'aimer soi-même quand on n'a pas été aimé, comment on arrive à trouver cet amour qui est quand même une des clés, voire la clé de la joie intérieure. C'est un vaste sujet, mais quelqu'un qui fait du mieux qu'il peut, c'est déjà beaucoup. Et à son niveau à elle, elle fait du mieux qu'elle peut, et puis à un moment donné, elle peut plus. Alors, elle a cette part d'inconscience qui fait que elle pense que sa fille, elle peut se débrouiller toute seule. Elle a 8 ans, elle est mature, elle assure beaucoup plus qu'elle. Elle pense qu'elle s'en sortira toujours mieux qu'elle. Et puis, elle oublie juste qu'une enfant de 8 ans, effectivement, elle peut se lever le matin, elle peut se brosser les dents, elle peut subvenir à des besoins de base comme se nourrir, dormir et... Mais l'amour, les câlins, le guide, la sécurité, ça, un enfant, il a besoin de quelqu'un pour être épanoui et avancer librement dans l'amour.
Hyper belle. C'est ça que tu regardes. Allez, vas-y, tu peux tremper tes lèvres. C'est samedi. C'est la fête ce soir. attends, ça va. Hein. C'est juste pour voir la vie en rose, un tout petit peu. Non, bah les pattes.
Évidemment, l'énergie, l'amour qu'on reçoit, le respect, la confiance, la sécurité qu'on reçoit quand on est enfant, c'est constructeur. Donc, et on se construit là-dessus. Donc, quand on devient parent soi-même, on fait avec ce qu'on est. Donc, forcément, on reproduit d'une certaine manière ce qu'on a reçu. Mais on peut aussi, en prenant conscience des choses déviantes qu'on a reçues, essayer de s'en débarrasser. Alors à ce moment-là, on peut se libérer de ça, on peut se libérer des choses qui nous ont impactées de manière négative et ne pas les reproduire.
Ma maman, elle est super et moi, je vais très bien.
Jamais ils vont nous séparer. Va t'acheter un truc chez Walib. Un truc qui te fait plaisir.
Voilà, sortie du film Gueule d'ange le 23 mai cette année dans toutes les salles françaises. Marion Cotillard a retrouvé aussi sur le site franceculture.fr en vidéo si vous le souhaitez. Marion Cotillard, donc actrice tête d'affiche dans Gueule d'ange, premier film de Vanessa Philo présenté dans la section Un certain regard ici à Cannes. À suivre la deuxième et dernière partie de la grande table avec deux figures du cinéma asiatique, le chinois Jia Zhangke et le japonais Kore Ida. À tout de suite.